Radio Cassine, grand témoin. Avec le même plaisir pour le même devoir, grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Raymond Ombapene Dunga. Il est ancien secrétaire particulier du président Mobutu et aujourd'hui il est sénateur. Honorable Raymond Ombapene Dunga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre parcours professionnel que vous avez passé au sein des forces armées zaïroises, aujourd'hui FRDC, mais vous nous parlerez aussi de ce coup d'État manqué de 1975 dans lequel vous avez été condamné à la peine capitale avec quatre autres militaires, si je ne me trompe pas. Alors, on va en parler dans cet entretien. On va commencer d'abord par faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Katakokombe le 8 avril 1938.
C'est bien cela, madame.
Et donc, lundi, c'est votre anniversaire. Demain déjà, c'est votre anniversaire. J'ai eu un anniversaire anticipé.
Je fête mon anniversaire dimanche, anticipé d'un jour, parce que le 8 avril, c'est un lundi. Alors, comme je voudrais avoir tous mes enfants à mes côtés, je fêterai ça par une messe d'action de grâce.
Et après la messe, après une recette en famille.
Oui, je veux fêter mon 75e anniversaire. Ça compte. Je ne fais pas de tralala, je voudrais simplement avoir des entretiens intimes de partage avec mes enfants.
Donc vous en avez combien ?
J'en ai 14.
Vous êtes marié, père de 14 enfants.
Oui.
Alors parlons de vos études. Vous avez fait vos études primaires à Katakokombe.
Bien sûr, c'est à Katakokombe que j'ai commencé mes études.
Pour les terminer à Tumbe.
Oui, je les ai poursuivis à Tumbe. Je n'ai fait qu'une année simplement pour l'année préparatoire. Pour aller au séminaire, mais comme je n'ai pas su aller au séminaire, j'ai été dirigé vers un collège célèbre de l'époque, qu'on appelle Collège Saint-Joseph de Boulongo, dans le Kasaï occidental, près de Moïka.
Et qu'est-ce qui a empêché que vous puissiez aller au séminaire ?
Eh bien, j'ai été impressionné à l'occasion de l'ordination du premier prêtre de notre diocèse, qui est comme par hasard mon oncle, les fastes de cette fête m'ont tellement impressionné que j'ai décidé d'aller au séminaire et de devenir prêtre comme lui. Un an après, je me suis préparé, donc après l'école primaire, je suis allé à Tumbe à la 7e année préparatoire pour aller au séminaire. Bien que j'ai été le seul à avoir accompli les critères scolaires qu'on avait demandé, on ne m'a pas accepté.
Pour des raisons particulières ?
Pas de raisons particulières. Simplement des raisons qui n'avaient rien à voir avec moi.
Comment ça, expliquez-nous ?
Je vous explique brièvement.
Oui.
Mon père, papa Paul, mon père, c'est un ancien de l'école des moniteurs. On appelait cette école à l'époque l'école normale. Bien que ça avait 3 ans de pour former des enseignants. Comme mon père a été à cette école et qu'il a enseigné ensuite à Katakokombe, monseigneur lui a tenu rigueur d'apprendre qu'il avait un bureau comme maintenant, vous savez, l'habitude chez nous. Alors le fait que l'évêque ait su cela, il lui a tenu rigueur et dit ton enfant ne peut pas aller au séminaire.
Donc c'est à cause un peu de votre père que vous avez raté ou manqué d'aller au séminaire.
Que son âme repose en paix, parce que je ne crois pas que Dieu regarde cela. Si regardait cela, David ne serait pas près de lui, ni Salomon. Vous savez combien de femmes Salomon avait, David
oui.
avait
oui.
400 femmes, plus de concubines. Hein?
Oui.
Bon. Bon, si Dieu regardait cela, cela ne serait pas aujourd'hui nos ancêtres dans la foi. Alors, vous voyez, un évêque qui a tenu tellement rigueur que finalement, le fils a payé à cause du père.
Okay.
Encore que mon père ne l'a pas épousé, cette femme-là. Peut-être on a dit que c'était un bureau, mais un bureau, c'est pour un temps, hein, ça passe. Alors moi, j'ai payé maintenant pour ma vie.
Alors, vous avez commencé vos études secondaires au collège Boulongo, vous l'avez dit, au Kasaï occidental.
Exactement.
Pour les terminer à l'Institut,
d'éducation physique à Kinshasa. Oui, c'est bien cela. En 55 déjà, j'ai quitté Boulongo et je suis allé à l'Institut d'éducation physique à Kinshasa. Comme il n'y en avait qu'un seul dans la, sur l'étendue de la République, on donnait des facilités à certains étudiants qui avaient des aptitudes, pas seulement intellectuelles, mais aussi physiques, pour aller à cette école-là. Et moi, je suis allé là après la deuxième secondaire, je n'ai fait qu'un trimestre, et puis on m'a transféré à Kinshasa. Je suis arrivé à 55, naturellement, tout au début de l'année scolaire.
C'était votre choix aussi, ou bien vous êtes venu à Kinshasa parce qu'on vous a obligé?
Non, on ne m'a pas du tout obligé. Les études, bien que c'était des études excellentes à Boulongo, c'était un peu dur sur le plan conditions de vie. Vous voyez, quelqu'un, jeune homme qui vient de la région de Tétela, donc on mange du riz du matin au soir. Alors, pour tomber dans une région avec le foufou et pas toujours foufou avec poisson ou viande, mais foufou avec des légumes, c'était vraiment dur. Oui. Alors, moi-même, j'ai demandé que je change. Et heureusement que cette possibilité m'avait été offerte et je suis allé à Kinshasa en 55.
Vous êtes resté à Kinshasa jusqu'en 1960?
Jusqu'en 1960, au mois d'avril.
Avant d'aller à Bruxelles.
À l'école royale militaire.
Qui vous a envoyé là? Il y avait des bourses qu'on...
Naturellement, il y avait une bourse et mieux qu'une
vous
bourse.
Vous êtes nationaliste, je veux dire.
C'était une bourse, c'est-à-dire qu'on nous a recrutés à la force publique. Et la force publique, vous savez, en 60, on prépare l'avenir. On savait que le pays sera indépendant dans quelques mois. Alors, les autorités belges voulaient avoir aussi des officiers. Parce qu'on ne peut pas avoir une armée sans officiers. Alors, on a recruté des candidats officiers. Et moi, je venais de terminer la sixième. Je l'ai même terminé un peu avant mes collègues, le général Moukobo, que vous connaissez, et moi-même, nous étions de la même classe. Nous avons présenté notre jury avant nos collègues. Et nous avons eu nos diplômes, c'est comme ça qu'on nous a recrutés. Et nous sommes allés à Berlin.
Il y avait des critères particuliers pour le recrutement?
Naturellement, parce que... Vous savez, les militaires, c'est les conditions physiques, hein, avant tout. Alors, nous avons eu la chance d'entraîner les militaires. Nous les entraînions parce que vous avez tous les grands champions du Congo à l'époque, les Boana, les Mangwele, tout ça, c'était des militaires. Et c'est nous qui leur donnions des entraînements chaque semaine. Ah, donc, on connaissait les officiers de la force publique, on connaissait aussi les militaires, tous les athlètes, on les connaissait. Donc, nous nous sommes familiarisés avec eux pendant des années, ce qui fait qu'au moment de des officiers, ce n'était pas difficile. Ils nous ont pointé. Ils savaient les gens qu'ils voulaient. Alors, nous sommes allés.
Et vous-même, vous étiez prêts?
Nous étions prêts, oui, à aller vite en Belgique. Pour, c'était d'ailleurs des rêves de
vous
tous les jeunes.
Vous étiez allés en Belgique pour découvrir la Belgique ou pour suivre ses études?
Pour suivre les études, madame. C'était pour suivre les études, mais aussi pour découvrir la Belgique. Les deux vont de pair.
Alors, vous avez passé 3 ans, je crois, à l'école royale militaire?
5 ans.
5 ans, 200.
4 ans à l'école royale militaire, plus 1 an de ce qu'on appelle année de spécialité.
Vous voulez spécialisé en administration militaire.
Exactement.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, colonel Lombard?
Ce que je n'aime pas dans la vie, c'est l'injustice.
Parce que vous-même, vous êtes... Vous pensez être juste?
J'essaie de l'être, madame.
Vous êtes sportif?
Oui, très sportif.
Jusqu'aujourd'hui?
Oui, jusqu'aujourd'hui, madame.
Vous
ne pratiquez peut-être pas autant quand j'étais jeune, mais je continue, je maintiens certains exercices.
Et lesquels, par exemple?
Des exercices des abdominaux. J'essaie d'entretenir un peu les muscles.
Pour garder la ligne.
Pour garder la forme. La ligne, ça, c'est pour vous.
La forme, c'est pour les hommes.
Oui.
Radio Capitaine, grand cœur.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, grand témoin, vous pouvez découvrir Raymond Ombar-Penedunga, ancien secrétaire particulier du président Mobutu. Aujourd'hui, il est sénateur. Parlons de votre parcours professionnel, colonel Lomba. Est-ce qu'on doit continuer à vous appeler colonel?
Oui, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, madame. Je l'ai été.
Mais
probablement, je le suis encore.
Vous avez quitté l'armée, non, pour réintégrer la vie civile?
Non, j'ai quitté l'armée parce que j'étais condamné à la peine capitale.
Oui, mais ça veut dire que vous êtes civil maintenant. Vous êtes militaire.
Je suis civil maintenant.
Donc, on vous appelle plus colonel. C'est une erreur.
Ah, mais je l'ai été.
Oui, mais c'est passé. Vous êtes plus colonel, vous êtes plus dans l'armée.
C'est quelqu'un que moi, qu'on a à cette époque, a gardé dans son esprit, colonel en bas. Je n'ai pas usurpé cette fonction-là.
D'accord, je vous appelle comme je veux, colonel en bas. Après 6 mois au quartier général, vous serez affecté à la présidence de la République, où vous avez exercé plusieurs charges, des 65 à 75.
C'est exact.
Là, c'est après votre retour de Belgique.
Oui, après mon retour de la Belgique, immédiatement, j'ai été affecté à la direction J1, c'est-à-dire la direction du personnel, où j'ai occupé le bureau statut. Le bureau statut, c'est le bureau qui intègre les avantages, qui calcule les avantages des militaires à tous égards, que ce soit au point de vue solde, que ce soit au point de vue des avantages en nature. Comme vous le saviez, à l'époque, les militaires devaient recevoir leur ration régulièrement pour leur maison. Tous ces avantages-là, c'était calculé au niveau du bureau statut que je dirigeais à l'époque.
Et de 1965 à 69, vous avez assumé les fonctions des secrétaires des cabinets à la présidence de la République,
exactement.
De Mobutu.
Exactement, oui. Madame, c'était après la prise de pouvoir. Donc le lendemain, donc le 25, c'était la prise de pouvoir par le haut commandement militaire. Le 26, j'étais affecté à la présidence de la République et pour occuper la fonction de secrétaire de cabinet. Secrétaire de cabinet, cela veut dire comme autorité du cabinet, du secrétariat, du chef de l'État qui était à Langombe, juste là à côté de la Banque centrale. Le président Mobutu n'a pas occuper ces bureaux de Langombe, c'est moi qui supervisais un peu le cabinet civil à Langombe.
Avec le président Mobutu, vous vous connaissiez personnellement ou vous l'avez connu par le canal de quelqu'un d'autre?
Non, je n'ai pas connu le président Mobutu personnellement. Je l'ai connu simplement lorsque je suis venu à l'état-major général pendant les 6 mois. Il était d'ailleurs à l'étranger quand moi je suis arrivé au Congo et j'ai été affecté par l'état-major. Et ce n'est que par la suite que petit à petit, il me verra et il me connaîtra un tout petit peu. Je peux vous dire juste qu'avant de passer à son cabinet, je n'avais pas eu un contact vraiment direct avec le président. Mon affectation a été un peu grâce au conseiller juridique du haut commandement militaire, qui était colonel Van Alwijn, c'était l'auditeur général. Il était désigné par la Belgique pour former les services d'auditorat général, c'est-à-dire la justice militaire. Et c'est ce monsieur-là avec qui je devais travailler les statuts de l'armée. J'ai travaillé un peu avec ce conseiller juridique qui est devenu en même temps conseiller juridique du président de la République.
Et de 69 à 70, vous êtes administrateur général.
Oui.
Qui veut dire?
C'est administrateur général, c'est-à-dire le chef de la sécurité du pays, quoi. Mais j'ai été avant tout administrateur principal chargé du département de l'intérieur, c'est-à-dire qui s'occupe du pays.
De 71 à 75, vous êtes secrétaire particulier du président Mobutu.
Exactement.
Donc vous étiez devenu très proche.
Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Langombe pour le Mont-Galema.
Au début, vous ne le connaissiez pas personnellement, et puis après, il vous prend comme secrétaire particulier. Qu'est-ce qui avait fait que vous désignez vous pour devenir son secrétaire particulier?
Mais avant de devenir le secrétaire particulier, je le connaissais déjà beaucoup plus intimement, parce que j'étais le secrétaire de cabinet. Tout le courrier arrivant à Langombe, donc je devais trier maintenant le courrier destiné au président de la République, le courrier destiné à monsieur et madame Mobutu. Donc tout ça, je lui étais déjà familier à l'époque parce que je devais m'occuper de son courrier et d'un certain nombre de ses dossiers.
Il a été séduit par votre travail, par votre savoir-faire?
Il me semble parce
que... Est-ce qu'il vous l'a dit personnellement?
Il ne me l'a pas dit, mais moi j'ai vu qu'il était tellement intéressé à ce que je faisais. Vous savez que le président était un militaire, mais il était dans le... Un officier, il était aussi dans le cœur et dans le corps. Quand moi je suis passé secrétaire de cabinet à Langombe, ce n'est pas à l'état-major qu'il demandait les rapports de l'état-major, les rapports de la situation militaire. Il me demandait à moi. Donc moi, je devais me ressourcer auprès de l'état-major, de l'état de situation de guerre, parce qu'à l'époque, on venait de sortir de la rébellion, vous savez, en 65. Il y avait une rébellion qui a pratiquement frappé tout notre pays. L'Est, l'Ouest, oui, tout ça. L'Ouest avec M. Moulélé, l'Est avec les Soumialo et compagnie. Donc, cette situation-là, le président voulait la voir tous les jours. Donc, moi, je devais me ressourcer.
Il vous a fait confiance?
Effectivement.
Mais bizarrement, le 1er septembre 1975, vous êtes condamné à mort pour un soi-disant coup d'État, monté et monté.
Exact.
Expliquez-nous, un secrétaire particulier du président et qui est accusé du coup d'État, manqué, raté.
Oui, mais pour moi, j'aurais pu attraper peut-être une crise cardiaque. Dieu soit loué que, comme il s'agit des histoires, des affabulations, j'ai pris les choses avec énormément de philosophie. Pas tout de suite, madame. Ce n'est qu'avec le temps que j'ai pu reprendre mes forces, tant physiques que morales, et je me suis dit, mais il s'agit d'une épreuve. On me met devant une épreuve dure, je dois absolument résister. Et j'ai résisté. C'est comme on dit dans la Bible quelque part, le Seigneur dit, j'ai durci mon front, de sorte que même le coup qu'on donne, ça ne dit, je ne sens pas.
Mais pourquoi seulement vous? En fait, pourquoi vous avez été cité parmi les commanditaires de ce coup d'État?
Vous donnez la raison pour laquelle j'ai été cité. Je pense que j'ai, maintenant avec le temps, on ne peut pas dire, je cherche depuis lors. Ça fait 38 ans, madame. Je cherche, je pense que j'ai trouvé. J'ai été tellement agaçant, je dis le mot, agaçant pour mon chef, pour le président de la République, à cause d'un dossier, terrible. C'est le dossier de la zaïrianisation. Alors, comme je vous dis, j'étais chef de la sécurité. Mon devoir, c'était de dire au président de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Cette décision, sa décision de zaïrianiser les biens des étrangers, ça a été une mauvaise décision.
Vous étiez contre cette décision?
Moi, je n'étais pas d'accord, ce ne dépendait pas de moi. D'être d'accord parce que c'était une opération qui visait les Congolais. Donc, je devais être en principe d'accord parce que c'est pour faire plaisir ou pour satisfaire une partie de mes frères. Mais j'ai trouvé que cette décision mauvaise. Et j'ai expliqué au président, si vous aviez eu la possibilité de choisir les meilleurs des Congolais qui connaissent le problème du commerce ou de l'agriculture, ça aurait été bien, parce que là, nous savions qu'ils allaient réussir. Mais on donne le bien des Blancs à tout le monde. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui n'a jamais été commerçant, vous lui donnez Noguera et vous voulez que ça marche. C'est ça, madame.
Alors, on va revenir sur ce coup d'État de 1975, le colonel Lombard. On va écouter quelqu'un qui nous a parlé de vous, qui a partagé la même cellule que vous en prison, je crois que c'est à Nginga, si je ne me trompe pas.
Nginga, oui.
Voilà. On va le...
prison militaire.
D'accord. On va le suivre, puis on revient juste après.
Je m'appelle Kaseya Félicien Moyampala, commissaire supérieur adjoint à la police nationale congolaise. Madame, on avait été arrêté en 1975, libéré en 1979 illégalement. Il n'y a jamais eu un coup qui a été monté par nous et qui avait manqué. C'est eux plutôt qui avaient monté un coup contre nous.
Comment vous êtes connu avec le colonel Lomba?
Moi, j'ai connu le colonel Lomba en prison lorsqu'on nous a arrêtés pendant la commission interrogatoire où les généraux Babia, Moulonga, ils nous interrogeaient tout en étant ivres, buvant du champagne. Non, ça m'écœure, madame. On a souffert pour rien. Je n'ai pas connu le colonel Lomba avant mon arrestation. Je l'ai connu pendant mon arrestation.
Et j'imagine que vous avez partagé beaucoup de choses en cellule.
En prison, bon, quand on était ensemble, on vivait ensemble, on était obligé de partager toutes les souffrances qu'on a endurées la journée comme la nuit. On se consolait parce qu'on n'avait pas droit à la visite, on n'avait pas droit à la radio, et on était là comme des animaux dans des cages. Bon, on devait se consoler.
Pendant tout le temps que vous avez passé ensemble en prison, comment vous l'avez trouvé? Il est quel genre de personne?
Ah, je l'ai trouvé comme un officier digne de ses noms, un monsieur humble et sociale, qui a vécu avec nous tous ensemble dans l'harmonie parfaite. Je n'ai rien à lui reprocher.
Donc il n'y a rien à lui reprocher, il était bien avec tout le monde.
Il était bien avec moi, avec tout le monde. Il n'y a personne du groupe avec qui il a eu de problèmes. Personne. Il partageait tout ce qu'il pouvait recevoir, comme nous les petits gagne-pain. Bon, celui qui nous supportait, disons, pendant les 4 années de prison. Je garde en lui un modèle d'officier parce qu'il a tenu bon durant tout le procès. On voulait l'imputer, même lui faire arracher certains secrets d'État, mais il n'a pas pu les dévoiler. Il est resté fidèle. Les autres, comme il en voulait, bon, ils ont imputé ce qu'ils ont imputé, c'était la dictature. L'auditeur général Ikulia est là, et s'il peut nous prouver le contraire aujourd'hui.
Alors, pour terminer, une chanson à dédier au colonel Lomba.
La chanson à dédier, je me rappelle quand nous étions en prison, je peux lui dédier Bondoué, chérie Bondoué, voilà. C'est une chanson qu'on écoutait quand on était en prison.
Merci beaucoup, Major. Merci, et bon dimanche chez vous.
Merci, vraiment.
C'est un de vos voisins de prison, le Major Kaseya.
Oui, le Major Kaseya était un jeune prisonnier, encore pour rien. Lui n'était même pas mêlé dans ce qu'on a appelé le coup monté et manqué, madame. Il était du côté de Libengué, à l'équateur, là. Et il semble que ce soit les membres de famille du maréchal qui y avait un compte à régler avec lui. Ils l'ont mêlé simplement comme ça. Comment vous pouvez être à Libengué et participer à un coup d'état qui se passe à Kinshasa? C'est impossible.
On l'a suivi tout à l'heure, il dit que c'est plutôt ceux qui vous ont accusé qui avaient monté ce coup d'état.
Oui, nous en sommes sûrs. Moi, personnellement, je suis sûr. Je peux même vous donner très rapidement parce que vous n'attendez pas les détails du procès, sinon nous allons faire des semaines ici. Quelle est la raison principale qui a fait qu'on arrête tout le monde à l'époque? C'était simplement tous ceux qui étaient en contact avec le général Fallou, considéré comme l'âme du coup monté et manqué, devaient être arrêtés. Ça, c'est l'ordre qui est tombé de la haute hiérarchie. Le général Molongia, pauvre général Molongia, que son âme repose en paix, pauvre général Singa, peut-être même l'auditeur général Likulia, qui était ministère public, tous ont reçu le général Fallou parce que c'est leur collègue. Plus tous les autres civils et militaires qui l'ont reçu ont été arrêtés. Mais curieusement, ceux qui sont restés en prison, ceux qui l'ont payé cher, ce sont d'autres, mais les collègues qui l'ont accueilli, qui l'ont reçu, qui ont parlé avec lui, eux n'ont pas été arrêtés. Ils sont devenus curieusement membres de la commission d'enquête révolutionnaire.
Mais est-ce qu'il n'y avait vraiment pas ce coup d'état derrière la tête de certains officiers?
Effectivement, nous avons l'impression que au départ, il y avait quelque chose. Madame, j'étais chef de la sécurité du pays, je sais analyser. Aujourd'hui, je peux vous décrire tout ce qui se passe. Malheureusement, comme je suis au procès, je ne veux pas tout vous dire. Je risque de donner certains arguments qui me serviront demain. Mais je vous dis que tout ça a été monté. Pourquoi monté? Il y a eu quelque chose. Mais autour de ce quelque chose, et le président Mobutu et ses généraux qui ont été dans ce qu'on a appelé la commission révolutionnaire d'enquête ont mis leurs ennemis ou ceux avec qui ils voulaient régler des comptes. Ils les ont mis comme ça pêle-mêle. Ça fait que une histoire qui aurait pu peut-être impliquer 2 ou 3 personnes a impliqué 50aine d'officiers, si pas davantage.
Mais colonel Lomba, qu'est-ce qui s'était réellement passé pour qu'on parle de coup d'état manqué?
Mais, chère madame, s'il s'était passé quelque chose, je vous serais le premier à vous le dire. Il ne s'était
donc
rien passé.
Donc, un bon matin, comme ça, le président de la République est réveillé, il dit, non, vous m'arrêtez tel officier, voilà, comme ça.
Je veux vous expliquer. Maintenant, alors, il faut que nous remontions dans le temps. Et peut-être, par mes explications, vous pourrez avoir une toute petite idée. Mais je vous dis, je vous promets, que tout ce que je vais dire ici, je l'ai écrit. Un livre sortira d'ici 2 mois sur ça.
Vous parlez de...
Je vous donne la grande ligne. Un jeune homme vient des études. Il a fait l'académie militaire, il a fait l'école de formation en ravitaillement. Et ce jeune homme-là était dans ce qu'on a appelé les formations, le bataillon de formation à Kitona. Il a eu la chance d'être le seul à être envoyé dans une académie militaire. Lorsqu'il a été à Sandhurst, et qu'il a fait il a suivi toute la formation, il a eu un accident dans la jambe gauche, et il est allé se faire opérer en Amérique. C'est là qu'il a connu Général Falou, peut-être une fois il a rencontré Général Falou, quand c'était l'attaché militaire. Le malheur de ce jeune homme, madame, c'est que pendant qu'il était à l'hôpital, parce que je vous ai dit qu'il a eu un accident avec sa jambe gauche, il est entré à l'hôpital militaire. Et là, il s'est accoutumé avec une des infirmières, c'est une Italienne, qu'il a prise comme épouse. Et c'est avec cette jeune dame qu'ils sont allés en Amérique. En Amérique, l'ordre était le suivant. Ceux qui font l'école de guerre sont pris en charge totalement, c'est-à-dire femmes et enfants. Mais d'autres, ceux qui font d'autres études de moindre degré, n'avaient droit à rien. Ce qui fait que lui, avec son épouse, devait se contenter de sa seule bourse. Ce n'est pas un motif là pour pouvoir en vouloir croire que c'est l'attaché militaire qui donne des bourses suffisantes pour ceux de l'école de guerre, mais pas pour d'autres. C'est peut-être une raison, et je pense que c'est une raison qui a poussé ce jeune homme à avoir un peu de la récrimination envers le général Falou.
Vous étiez à peu près combien qui avait été condamné à cause de ce coup d'État monté?
À la peine capitale, nous étions 7. À la peine de servitude pénale ordinaire, il y en avait une cinquantaine. Donc, on est plus ou moins entre 50 et 60 qui avons été dans l'ensemble arrêtés.
Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez été condamné à la peine capitale? Vous avez pensé à quoi en ce moment-là?
J'ai été condamné à peine capitale.
Lorsque le verdict est tombé, condamnation à la peine capitale, qu'est-ce que vous avez ressenti en ce moment-là?
Mais je m'attendais déjà à cette peine. Parce que les infractions qu'on m'a reprochées, sur lesquelles j'étais interrogé, complot, trahison, assassinat de 150 citoyens, tout ça, madame, je connaissais le tarif parce que je sais lire. Je savais que la peine capitale, je ne l'éviterai pas. Donc, je me suis préparé en fonction. Je dis comme c'est une peine injustifiée, je me suis révolté déjà à cette époque-là. Donc, j'allais là-bas avec vraiment art et je me suis défendu comme je pouvais le faire.
Après 4 ans et demi passés en prison, le président Mobutu va vous gracier. C'était lors de son 49e anniversaire.
Exactement.
Il
va nous gracier, pas nous amnistier. Nous étions amnistiés à 78. Il y avait une amnistie générale, madame.
Ok.
Alors, il y a un juriste, parce que les juristes, il y en a de toutes les catégories. Il y a un juriste qui a interprété cette ordonnance d'amnistie de 78 et qui a dit qu'un ex-militaire, c'était un militaire. Et il nous a maintenus en prison. Parce que dans cette ordonnance, il disait « Tous les civils sont libérés, les ex-militaires demeurent. » Mais un ex-militaire, c'est quoi? Ce n'est pas un civil. Mais pour ce juriste, un ex-militaire, c'est un militaire. Nous sommes restés en prison pendant un an. Ce qui a fait que, pour sortir de la prison, il a fallu la grâce, l'ordonnance de grâce du chef de l'État. Et voilà. Mais quand vous demanderez aux juristes, on vous dira que la mesure la plus favorable entre l'amnistie et la grâce, c'est l'amnistie. Ça lave tout et éventuellement nous aurions pu bénéficier, par exemple, de la restitution de nos biens. Ce qui n'a pas été l'État.
Vous avez été graciés et non amnistiés.
Nous étions graciés et non amnistiés. Et alors, on n'a jamais été amnistié, madame, malgré qu'il y a eu plusieurs ordonnances d'amnistie par la suite.
C'était quoi votre réaction lorsque le président avait décidé de vous gracier?
Mais nous étions heureux, madame, parce que, qu'est-ce que vous voulez, c'était une injustice. On nous a condamnés pour rien.
Est-ce que vous êtes allé le voir pour le remercier?
Pour le remercier,
ouais.
À cause de ça.
Ouais.
Non, je ne suis pas allé le voir.
Vous étiez tellement en colère contre lui.
Je ne sais pas s'il y a des amis ou des collègues qui l'ont fait. Moi, je n'ai pas été le voir, madame.
Et pourquoi? Parce que vous étiez tellement en colère contre lui. Vous n'avez pas supporté
je n'étais
fait,
pas
que vous soyez emprisonné.
Je n'étais pas contre lui, madame. J'étais déjà dans des dispositions morales telles que je n'étais contre personne. Et d'ailleurs, si vous lisez mon livre, j'ai pardonné à tout ce monde-là, le président en tête. Je n'ai pas gardé une dent contre lui, mais je n'ai pas été le remercier. Pour le remercier, pourquoi?
On va souffler, colonel Omba, avec cette chanson de Thierry Bondoué que vous a dédié le major Kessia. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien. Zunga, actuellement sénateur, il est ancien secrétaire particulier du président Mobutu et celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Après avoir quitté la prison,
oui,
vous avez décidé de revenir à la vie civile.
Naturellement, parce que on m'a mis. Vous savez qu'il y a une mesure, à part la condamnation à la peine capitale, Donc, vous perdez tout.
Vous êtes radié, je vous
On est destitué.
Destitué.
C'est-à-dire que vous redevenez civil. Donc, comme vous redevenez civil, maintenant on nous libère. Qu'est-ce que je devais faire? Je ne devais pas être resté à l'armée de par ma volonté. Je devais me reconvertir. Et d'ailleurs, c'est le président Mobutu qui a facilité ma reconversion.
Comment ça?
C'est pour vous dire qu'il n'y avait pas que la condamnation. Avant d'entrer en prison, j'avais restitué ce que j'ai reçu à l'organisation. Par force, je ne l'ai pas demandé. C'est la société CADEC chez moi, au Sankuru. Je suis allé restituer ça pendant le procès. Mais quand je sors de la prison maintenant, et que par malchance, mon fils, mon dernier fils meurt à Kinshasa, et que je viens l'enterrer, le président Mobutu, le cadeau qu'il me fait, c'est me remettre de nouveau l'attribution de la société CADEC. Mais la société CADEC, vous demanderez à tout le monde au Sankuru, madame, c'est la société qui avait le plus de magasins dans tous les territoires. Donc, il m'est destiné à faire du commerce. Et c'est ce que je ferai.
C'était une forme de consolation.
Oui, ou moi, je n'appelle pas ça consolation tellement je dis ce sont des appels de pied. Je me disais, oui, le président voudrait absolument que je puisse faire un pas vers lui, qu'on puisse parler.
Et j'ai ça, vous l'avez refusé, vous l'avez passé.
Oui, j'ai tout fait pour être reçu. Je n'ai pas été reçu, malheureusement, jusqu'au moment où Rafdel est intervenu, où le président est parti. Et voilà, j'ai raté cette occasion-là. Le président aussi a raté une occasion. Hein, on aurait pu peut-être remettre la pendule à l'heure. On ne l'a pas fait.
Et depuis 92, vous avez réintégré la vie civile. Vous êtes lancé dans la politique.
Oui, depuis 92. Depuis 92, oui, effectivement, je suis dans la politique. D'abord la conférence nationale souveraine, ensuite le Haut Conseil de la République, ensuite le ministère de Travail et Communication dans le gouvernement Senghor, et voilà le sénateur maintenant.
Aujourd'hui, vous êtes sénateur.
Oui, maintenant, je continue en politique, quoi.
Mais pas fatigué, vous n'allez pas prendre votre retraite à 75 ans, vous êtes toujours actif en politique.
À 75 ans, j'ai envie d'arrêter, madame, j'ai envie, mais je n'arrête pas comme ça, moi, la vie ne m'appartient pas.
Vous décidez, non? Vous vous dites, bon,
écoutez,
moi et la politique,
je vais calmer. Mais l'avenir dépend de Dieu. S'il estime que je dois continuer à demeurer sénateur, ben je le ferai.
Non, vous-même aussi, vous pouvez vous décider que l'on est Lombard, oui.
Vaut ma décision par rapport à la décision divine? Celui qui a quand même notre avenir. Qu'est-ce que je peux décider dans tout ça?
On va parler actualité qui vous concerne personnellement, colonel Lomba. Vous exigez la révision de l'arrêt de justice que vous avez condamné il y a 38 ans
à
la peine capitale pour coup d'État
manqué.
Colonel Lomba, on va s'ouvrir sur le reportage de Dona Madimba lors de la séance du 13 mars dernier sur cette affaire du coup d'État de 1975.
En 3 heures chrono, la séance de ce mercredi a été levée, renvoyant les parties à la prochaine audience et fixant le rendez-vous à dans exactement 1 mois, ce qui permit aux plaignants de prendre un peu d'air, mais ne leur donnant cependant pas du tout confiance en la procédure en cours, le sénateur Raymond Omba.
Ils n'ont aucun élément pour le retarder comme ils le font. Le conseil général de guerre a été remplacé par l'auditorat et plus tard la haute cour, c'est eux qui sont chargés de ces documents-là. Alors finalement, donc c'est moi la victime qui doit payer.
L'homme qui selon lui avait été condamné arbitrairement à la peine de mort il y a 38 ans dans le coup d'État que beaucoup qualifient de monté, clame toujours son innocence et demande donc à la haute cour militaire de le blanchir. 2 acteurs importants de cette affaire ont donc été entendus ce mercredi. Le colonel Kabbala, greffier du procès qui a condamné en 1975 Raymond Omba, mais également Dr Kabamba, président de la commission qui a réexaminé cette affaire en 1992 à la Conférence nationale souveraine de la RDC. Objectif de ces 2 témoignages, permettre à la Cour d'avancer dans son initiative d'authentifier les documents en sa possession dans cette affaire, un travail que l'audience prochaine va aussi hériter.
Vous avez été gracié par le maréchal Mobutu. Pourquoi vous exigez la révision de l'arrêt de justice?
Mais c'est parce que l'arrêt était unique, madame. L'arrêt me condamne à quoi? L'arrêt me condamne au complot, à la trahison, aux assassinats. Alors, si moi je me tais, ça veut dire que j'accepte tout ça.
Mais quel impact ça peut avoir aujourd'hui?
Mais l'important, c'est de me laver. Je voudrais qu'on me lave. Moi, je suis officier.
Oui, mais qu'on vous lave, ça aura quel impact?
Et j'ai envie qu'on me lave. Et les organes qui ont le pouvoir de laver, c'est la justice. Je voudrais recouvrer mon intégrité. Il faudrait qu'on me lave. La réhabilitation, vous ne vous donnez pas la réhabilitation. La réhabilitation, c'est la justice qui donne, et moyennant de formalité, que je suis maintenant.
Mais est-ce que vous n'êtes pas bien comme vous êtes actuellement?
Mais madame, moi je suis un homme d'honneur. C'est pour ça que j'ai été formé officier. Je ne peux pas me contenter des à peu près. Ou j'ai été fautif, on me punit, ou je ne l'ai pas été, on me lave. C'est quitte ou double. Je ne peux pas accepter des à peu près. Si moi j'accepte ça, ça peut encore aller. Mais mes enfants, on va dire, les enfants de conspirateurs Omba, vous voulez que mes enfants portent cette ignominie?
Et donc vous recherchez l'honneur, c'est ça?
C'est l'honneur, madame, naturellement. Je suis un homme d'honneur, je mérite cela, je n'ai fait que ça pour... tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est pour garder cet honneur-là.
Alors, à l'allure où évoluent les procès, vous pensez que vous serez lavé?
Je dois être lavé, madame.
Ça, c'est votre souhait?
Oui, pas mon souhait, c'est ma conviction. Là, au littoral ou la haute cour militaire, ils n'ont pas le dossier de coup monté et manqué de 75. C'est moi qui leur donne tous les éléments pour reconstituer. Et si je le fais?
Est-ce que ça risque pas de prendre beaucoup de temps aussi?
Ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent.
Et beaucoup d'argent, justement.
Oui.
J'ai commencé
en 76 avec le bâtonnier Dudi, d'heureuse mémoire. Celui qui m'a défendu pendant que j'étais condamné à 75. Quand je quitte la prison, en 2006, je vais le voir. Je dis, maintenant, nous allons chercher la réhabilitation. On a commencé avec le bâtonnier Dudi. Malheureusement, il nous a quittés. Maintenant, je continue avec Maître Soal et Maître Moulinda. Je continue la lutte, madame. Je vous donne un exemple, madame. Moi, j'ai recouvré presque tous mes biens. Mais il y a des veuves, des orphelins, dont les pères sont morts aujourd'hui, qui n'ont pas récupéré leur villa familiale. Ça se trouve entre les mains des officiers selon, des gens qui ont triché, qui ont volé des biens. Parce que nous n'avons pas été condamnés à la peine patrimoniale. Nous avons été condamnés à des peines connues, peines capitales. Peines capitales ne met pas les biens là-dedans, madame.
Et donc vous vous battez aussi pour ces veuves et ces orphelins?
Naturellement, madame. Moi, je ne suis pas isolé. Quand on m'a arrêté, nous étions 7, nous étions 40, nous étions 50. Je ne me bats pas pour moi-même tout seul. Chacun de nous attend qu'on lui rende justice. Mais est-ce que c'est difficile dans un pays, madame, qu'on rende justice à quelqu'un parce qu'on constate qu'on s'est trompé ou que des autorités ont trompé la justice? Je crois que ça, on devait honorer le pays.
Alors, on vous souhaite bonne chance.
Merci, madame.
À la fin de notre entretien, vous avez un dernier mot, un mot particulier à tous les auditeurs des radios Capi qui nous suivent en ce moment.
Madame, le dernier mot que j'ai, je l'adresse à tous les dispensateurs de la justice. Je dis rendez justice. Rendez justice bénévolement. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent, d'avoir des ordres de personnes.
Est-ce que c'est possible dans ce pays, colonel Lomba?
Oui, c'est possible, madame. C'est possible. Et sachez que de votre décision dépend la vie de Pierre, Paul, Jacques, des innocents, des veuves et des orphelins. C'est ça que j'adresse comme message à mes amis qui ont les touches là. Je leur dis cela comme un message simplement pour leur demander d'avoir du cœur.
Voilà.
Nous sommes en train d'attendre la justice, que la justice nous lave.
Merci, colonel Omba. C'est la fin de cette émission. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment que grand témoin, c'est Raymond Omba Sénédunga. ancien militaire, ancien secrétaire particulier du président Mobutu, aujourd'hui il est sénateur. Merci à Sylvain Matondo qui était à la technique, au micro Kevin Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bon suite de programme sur la fréquence de la paix.